Alors, bienvenue à cette 22e édition de Apéro UX sur le sujet de légal et comment naviguer entre légal et éthique. On avait en ce 12 février 2026 trois invités, Xavier Beauchamp-Tremblay, chef innovation et transformation chez Langlois Avocat, Nicolas Archambault, avocat associé chez Juriseo Avocat et cofondateur chez Bastia, Olivier Fortin, analyste en accessibilité chez Radio-Canada et évidemment Juliana Alvarez qui a fait la modération de cet excellent panel que nous avons eu donc à l'École de technologie supérieure à l'ETS. Merci beaucoup à eux pour l'hospitalité. Merci également à nos commanditaires P2Co, IBM, Blash & Young, HEC Montréal, l'ETS évidemment comme je l'ai mentionné. Et Autodesk. Et maintenant, je vous invite à écouter. Il manque un tout petit morceau au début de l'entrevue. Je suis désolé, c'était pas dans notre contrôle. Donc voilà, ça fait quand même un enregistrement pas trop mal, pas tout à fait à la qualité qu'on a d'habitude, mais j'espère que vous aurez du plaisir à l'écouter comme on a eu du plaisir à y assister. Merci beaucoup et à la prochaine.
Contraindre versus ce qui est davantage du ressort moral et éthique. Et la deuxième moitié, on va vraiment parler du design même de documents légaux pour les rendre accessibles et inclusifs. On fonctionne souvent comme ça, mais pour les nouveaux, on appelle ça le fishbowl. Donc, si vous avez quelque chose à venir apporter à la discussion, vous avez un bémol à mettre ou vous voulez aussi donner des exemples concrets, on vous invite aussi à vous joindre à nous dans la discussion. On vous passe le micro. Donc, vous êtes plus que bienvenus de venir participer à la discussion. Donc, je vais laisser mes invités se présenter.
Bonjour tout le monde. Nicolas Chambault, je suis avocat depuis une dizaine d'années. Je suis un litigator pur et dur de formation, donc je vais à la cour pour plaider. Ma pratique était principalement concentrée sur le litige en droit commercial, donc des chicanes d'actionnaires, chicanes d'entreprise. C'était vraiment mon core business. Je suis encore un des associés et cofondateurs de Juriseo Avocat. On a une quinzaine d'avocats plus et une trentaine d'employés. Un bureau sur la rive nord de Montréal, un dans le Bas-Saint-Laurent et la semaine prochaine à Montréal. Donc, ça grossit, ça va bien. Et en parallèle de tout ça, bien, j'ai cofondé également Bastia, qui est une plateforme technologique en ligne qui permet à des entreprises dans le secteur de la construction à protéger leurs clients. Donc, c'est une longue phrase qui fait juste dire, bien, quand des gens en construction ne sont pas payés, ben, on a une technologie qui est là pour les aider.
Oui, voilà. Xavier. Avocat aussi, j'ai pratiqué 8 ans dans un contexte traditionnel à faire de la propriété intellectuelle, du droit de la technologie. Et là où j'ai eu mon bain pour la première fois dans le monde de l'expérience usagée, c'est que je suis devenu éventuellement DG de CANLI, l'Institut canadien d'information juridique. Un poste que j'ai eu pendant 6 ans de temps où c'est vraiment aux confins de la publication du droit sur Internet.
On s'adresse à une clientèle de professionnels. Donc, CANLI est très utilisé par les avocats au Canada. En fait, selon les sondages, on avait 97 % des avocats qui utilisaient le site. Je pense que les 3 % qui ne l'utilisaient pas étaient en fait morts et ils ne l'avaient pas encore déclaré au barreau. évidemment, c'est un site qui est ouvert, pas de paywall, donc il est aussi accessible à l'ensemble des membres du public pour leurs besoins, si tant est qu'ils peuvent comprendre les contenus. En matière d'information juridique, c'est un agrégateur de contenu qui couvre toutes les provinces et donc territoires du Canada et plus le droit fédéral. Donc, sans m'y connaître beaucoup dans le domaine, j'ai été plongé dans cet univers-là, dans ce rôle-là. J'ai fait 4 ans de consultation après ça chez KPMG et maintenant j'ai un rôle depuis 6 mois chez Langlois en innovation et transformation avec, vous le devinerez sans doute, là, un gros rôle avec l'implantation de l'IA au sein du cabinet.
Bonjour tout le monde. Moi, mon nom c'est Olivier. Je suis récemment, ça fait plus de 9 ans, chef analyste en accessibilité numérique classique CIA du Canada au service anglais. Concrètement, mon travail, ça consiste à faire en sorte que tous les contenus, principalement sur le digital, soient accessibles aux personnes en situation de handicap. En ce moment, beaucoup de projets, petits projets, ça, les Olympiques et les Paralympiques, je pense que ça vous parle. Ça fait un an que je suis là-dessus, à peu près. Mais voilà, plein de bonnes choses. Donc, j'ai bien hâte de participer à ce panel.
Merci à tous. Alors, on démarre sans plus tarder. Donc, on commence avec le droit en UX, donc toute l'intégration des réglementations dans le design UX. Mais j'ai une petite question dans la salle. Qui dans la communauté aujourd'hui est à jour et comprend tous les enjeux légaux de leur travail? Si on lève la main.
Mais moi, je n'ai pas la main.
Mais alors, ça, c'est un des gros problèmes. Il y a beaucoup d'études, surtout une qui a été publiée en 2024, qui souligne qu'effectivement, la plupart des praticiens en UX manquent de connaissances et de méthodologies pour intégrer les contraintes légales dans leur pratique quotidienne. Donc, c'est un problème quand même assez important. En Europe, la législation est beaucoup plus avancée dans le domaine numérique. Depuis l'entrée en vigueur du RGPD et de la Digital Service Act, les designers doivent traduire ces exigences juridiques en expérience utilisateur claire, efficace et conforme. Donc, ma grande question à mes panélistes, c'est qu'en est-il au Canada et comment les appliquerons-nous?
Question effectivement compliquée parce qu'il n'y a pas de loi centralisée. Puis en plus, là, si vous allez sur Internet et vous remplissez toutes sortes de formulaires pour dire où vous habitez, vous avez sans doute remarqué, puis probablement que vous le savez mieux que moi, que si vous êtes Canadien, vous êtes une des seules juridictions avec les États-Unis où il faut aussi sélectionner une province. On est un des rares pays où il y a vraiment des juridictions souveraines pour le provincial et le fédéral dans leur domaine de compétences. Donc, il faut toujours regarder à deux places pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec nous. Et déjà, c'est un défi supplémentaire. Puis, il faut peut-être regarder aussi à 13 places en même temps si vous avez un produit ou un service qui est pan-canadien dans son application. Le corpus est extrêmement morcelé, donc il y a du droit de la consommation qui existe au Québec, il y a du droit de la compétition, du droit de la concurrence en fait au niveau fédéral qui s'applique aussi. Et là-dessus, c'est difficile de dire qu'il y a des lois précises qui vont dicter spécifiquement ce qui peut se passer en matière d'expérience usagée. Il y a aussi les lois sur la vie privée. Au Québec, une des choses les plus concrètes qu'on a, c'est la loi 25 qui demande un consentement documenté ou en tout cas selon les cas. Et ça, c'est une des articulations les plus concrètes qu'on a et à laquelle on peut s'accrocher. Le reste, il faut un peu l'inférer des principes qui sont dans un corpus qui, comme je l'ai dit, très morcelé. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on peut faire n'importe quoi. Moi, j'ai un peu une aversion au réflexe de... puis certains professeurs de droit ont ce réflexe-là en particulier, là, c'est de dire à chaque fois qu'il y a un phénomène nouveau dans la société, ils vont dire « Ah bien, comment on le réglemente, cette affaire-là? » Comme s'il n'y avait rien. C'est pas vrai qu'il n'y a rien, parce que par exemple, en droit civil, ben il n'y a rien qui dit que j'ai pas le droit de donner un coup de poing noir sur blanc dans le droit civil. Sauf qu'il y a quand même une disposition généraliste qui dit que si je cause un dommage et que c'est ma faute et qu'il y a un lien de causalité entre les deux, ben, je suis responsable du dommage que j'ai créé. Ça va pas nécessairement s'appliquer toujours dans un cadre commercial, ça va pas, parce que là, on rentre dans du droit de la consommation, il y a des lois qui existent, etc. Mais en tout cas, je vous épargne les détails. Mais en général, faut pas présumer qu'on peut être de mauvaise foi parce qu'il y a une absence de loi sur l'expérience usagée. Puis là, juste pour rentrer dans le concret, puis peut-être fermer le droit concret qui existe, là, quand tu parlais des dark patterns en préparation pour le panel, ben, il y a pas de loi sur les dark patterns en matière de droit de la concurrence. Il y a pas quelque chose où ils vont dire, ben ça, vous avez pas le droit de le faire, sauf les, je me souviens même pas du nom de l'expression, là, mais les prix cachés ou les prix qui augmentent, là, c'est-à-dire que ça est présenté comme étant le phénomène Ryanair, là, où tu penses que c'est 30$ puis ça finit par être 100$ à la fin quand tu finis par... Ouais, aussi. Donc, ça, ces pratiques-là sont expressément prohibées, mais le reste des pratiques où on insère délibérément de la friction dans une interface pour rendre ça difficile de se désabonner, des choses comme ça, ben, il n'y a pas grand-chose qui existe là-dessus, malheureusement, mais ça ne veut pas dire que vous avez les coups des franges pour faire n'importe quoi. Puis là, il y a l'accessibilité, tu connais mieux, là, mais je ne vais pas parler pendant une demi-heure non plus. Là.
C'est sûr qu'au niveau des normes, sont tellement compliquées qu'il y en a tellement que c'est impossible de toutes les connaître. Mais en même temps, je pense qu'on les connaît toutes parce qu'elles sont toujours partout. Puis au final, ça arrive souvent juste au gros bon sens, puis à ce qu'on est habitué de voir. Parce que je pense que le marché, il se régularise par lui-même parce que les grosses corporations vont mandater les grands cabinets pour faire vraiment le corpus parfait de qu'est-ce que c'est. Puis le marché de par lui-même va commencer à s'adapter à ce qu'on voit, puis il va avoir une normalisation qui va s'implanter juste naturellement. Quand que la loi est passée, par exemple, sur les bannières pour les cookies, Je suis sûr qu'il y a 95% des gens qui n'ont pas consulté leurs avocats, mais finalement, pratiquement 95%, voire 100% des sites Internet ont commencé à avoir ces bannières-là. Donc, il y a vraiment une régulation normale du marché. Ça, c'est la première, le premier élément que je voulais apporter sur le corpus des règles qui sont infinies et incompréhensibles à savoir, parce qu'il y en a tellement, mais en même temps, tout le monde peut les connaître dans une certaine mesure. Puis, si on a besoin de spécifier, on peut aller justement voir son conseiller juridique ou peu importe. Ça, c'est le premier élément. Mais l'élément, je pense, qui est fondamental, ça vient un peu à ce que tu disais, Xavier, c'est la compréhension. Donc, je me rappelle toujours, moi, on dirait que c'est, ça va rester dans ma mémoire. J'avais un procès en droit commercial. Là, je vous disais que c'est ce que je faisais. Puis, je plaidais une clause dans un contrat commercial. La juge, elle m'a dit, « Maître, c'est pas un examen de droit ici. » Moi, je plaidais la clause. Mais la juge, là, c'était pas la clause qui était importante, c'était la compréhension, puis pratiquement le gros bon sens derrière qu'est-ce qu'elle avait accepté. Puis, je pense qu'il y a un réflexe pour vous qui est en design, mais c'est de garder ça en tête. C'est quoi la compréhension réelle de mon utilisateur? Si la compréhension, elle est discutable ou loin d'être parfaite, mais à ce moment-ci, il y a de quoi qui n'est pas correct, puis il faut le corriger.
Bon, il se passe plusieurs choses là, en termes de lois, de normes. En fait, c'est pratiquement les normes qui disent qu'est-ce qu'on fait en incivilité. Mais là encore, il n'existe pas de cadre, on va dire, strict. Par exemple, pour nous, à la CVC Radio-Canada, on a les normes, on suit une partie des normes locales, on suit également une partie de nos propres normes qu'on a basées sur les normes locales, parce que toutes ces normes-là sont très sujets d'interprétation aussi. Il y a tout le côté, on va dire, encadrement. Moi, je pense plus à tout ce qui est, tout ce que tu as cité tantôt, le GDPR et autres, pour tout ce qui est des sauvegardes de données des usagers. Puis tout ça, ensemble, en fait, on se rend compte que c'est, je dirais, que les normes en activité, elle vient à quelque part protéger l'organisation, mais on a l'impression qu'il faut vraiment se mettre dans la peau des usagers aussi. Parce qu'on peut faire des choses qui sont complètement valides en termes de normes, mais qui sont inutilisables pour des personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est du côté là, je trouve ça assez important de mentionner. Parce que en dehors du cadre légal, il y a aussi un aspect social. Et puis ça, je pense que c'est très important de garder en tête.
Ça vient un peu à...
Juste deux petits points de plus. Moi, par ailleurs, là, je trouve que la solution qui est venue de l'Europe avec RGPD, où on se ramasse à devoir cliquer 35 fois par jour sur des cookies, je trouve que c'est un désastre. Donc, si c'est quand j'entends le législateur qui dit « on aimerait ça avoir ça », puis la profession juridique est composée d'avocats en privacy, qui aime ça quand il y a des lois sur la privacy compliquées, parce que ça fait des mandats à vendre aux entreprises qui ont besoin d'être en conformité. Fait qu'il y a très peu de gens qui sont dans la salle pour dire « ça n'a pas d'allure cette affaire-là ». Mais il faut se le dire, là, le résultat est absurde. Moi, je suis un fan du web et c'est une des grandes raisons pour laquelle j'ai décidé de shifter ma carrière pour aller travailler chez Canly, qui est une ressource web ouverte, et de voir à quel point l'expérience web est rendue désastreuse de A à Z, et je ne me sens pas davantage protégé d'aucune façon par la multiplication des acceptations que je fais sans lire. Donc moi, qu'on voit l'Europe comme étant le Saint Graal, je trouve que le résultat est désastreux. Et très brièvement, quand tu parles que les normes viennent de l'industrie, bien, c'est un appel à vous aussi. Le législateur, il faut qu'il vous entende pour ne pas faire des choses stupides. Et quand vous développez vous-même et que vous prenez le taureau par les cornes pour dire bien, c'est comme ça que ça devrait être fait, ça a une influence sur les législateurs après ça, parce qu'ils ne partent pas dans le vide avec des idées de fous qui viennent d'ailleurs. Donc, il y a un rôle à jouer pour vous. C'est un vase communicant, cette affaire-là, et vous avez un rôle citoyen important là-dedans. Car les juges vont interpréter aussi les dispositions législatives. Ils vont regarder c'est quoi les meilleures normes de l'industrie. Donc, si vous les avez documentées, ça va avoir une grande influence sur le processus, peu importe la loi qu'on est en train d'essayer d'appliquer aussi.
Ah, mais si tu permets, j'ajouterais aussi que les normes de l'industrie comme avocat pratiquant, c'est ce qu'on utilise à la cour. Donc, même si c'est fait par une association privée, on va les utiliser, puis ça va aider le juge à prendre sa décision. Donc, c'est vrai de dire que les éléments que vous allez créer de votre côté, même si ça relève du domaine associatif ou privé, c'est pertinent. Mais je veux dire aussi que quand on m'a invité pour le panel, c'est quoi, c'est droit et éthique, c'est ça?
Oui,
le...
droit légal, ouais, c'est légal et éthique.
Qu'est-ce que ça veut dire, légal et éthique? Mais l'exemple de Xavier est parlant. C'est légal, on nous oblige légalement à mettre la bannière d'acceptation, mais est-ce que c'est éthique? Il faut se poser la question parce que tout le monde clique là-dessus, puis qui les comprend? Mais là, c'est là que l'éthique rentre. Nous, les avocats, on ne rentre pas dans l'éthique, mais vous, comme UX designer, ben, vous avez le pouvoir de le faire.
Merci. Ben, d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, puis sur ce que Xavier disait avec l'Europe, il faut quand même savoir qu'en accessibilité, il y a le premier draft du Accessible Canada Act qui vient d'être publié, qui est principalement basé sur les normes EN, qui sont des normes européennes. On va travailler là-dessus. Je pense que tout n'est pas mauvais. Il y a des choses à prendre. Après, c'est sûr que tout ce qui est consentement utilisateur, spécifiquement sur le web, je trouve qu'il y a beaucoup de consentement qui est un peu forcé. C'est-à-dire, ben, tu sais, on peut pas scroller, on peut pas, la bannière prend trop de place, etc. Le design n'est pas toujours clair. On force à cliquer sur le tout accepter, mais est-ce qu'on veut vraiment tout accepter? Je suis pas sûr. Là-dessus, la valeur éthique, elle est vraiment importante parce que je trouve que en termes de UX, si on guide une expérience vers un consentement, puis ça, vous allez me corriger, parce que moi, je travaille pas en droit du tout, mais je trouve que c'est un peu forcé. Là-dedans, je pense que c'est important de comprendre tous les aspects de ce que l'utilisateur s'attend à avoir. Puis clairement, c'est une des responsabilités qu'on a en tant que UX design de faire en sorte que cette interface-là de consentement soit claire. Là où moi je trouve qu'il y a un enjeu, c'est que généralement, toutes ces interfaces-là qui sont entre autres gérées en partie par le légal et le texte qu'on va mettre à l'intérieur et tout ça, appartiennent à d'autres compagnies qui, elles, n'ont pas forcément l'accessibilité en tête. Et là, ça devient un enjeu compliqué. C'est une partie du travail qu'on fait à CBC Radio-Canada sur cette fameuse bannière qui est présente partout. Donc là, nous, ça nous a amené aussi à d'autres enjeux parce qu'il faut savoir qu'aussi on supporte des téléviseurs connectés. Et sur les téléviseurs connectés, on a également ce consentement à passer. Sauf qu'en termes d'accessibilité, on s'entend, on navigue pas exactement pareil sur un téléviseur que sur le web. Donc ça apporte tout un jeu de challenge. Mais c'est ça, on essaye de faire en sorte de dire à la compagnie, ben, ok, il faudrait changer ça, il faut améliorer ça, il faut utiliser un langage plus clair. Bref, il y a beaucoup de choses à passer.
Ben, vous avez anticipé mes questions, mais j'allais justement poser ça dans le sens que on a beau dire, effectivement, il y a des réglementations, donc il faut qu'on mette des termes et conditions, il faut qu'on mette des manières, il faut qu'on mette des cookies, il faut qu'on mette comment se désinscrire d'une newsletter si on veut. Donc, on a toutes ces obligations-là. Est-ce qu'on le fait correctement et est-ce qu'on le fait... Alors là, c'est là ma question entre éthique et légale. Est-ce qu'on comprend que c'est une question éthique de, si on le laisse puis on dit de toute façon les gens ne vont pas le lire, vont le lire à moitié, on le sait tous, fait qu'ils vont juste scroller, hop, allez, ils acceptent. Est-ce qu'on a quand même une responsabilité légale de le rendre plus ou moins inclusif, facile à lire ou une manière où il ne peut pas juste faire skip, skip, skip puis passer au prochain? Est-ce qu'il, ou c'est même pas réglementé?
Je ne vais pas exactement répondre à ta question.
On contourne!
Je vais y aller dans... quand on parle de consentement aussi, il y a tout un aspect de l'accessibilité que je ne sais pas s'il est connu, mais en fait, bon, l'accessibilité, c'est vraiment, on va dire, intersectionnel, ou peu importe, ça va vous toucher un jour ou l'autre. C'est situationnel également. Suivant, dépendant dans le contexte dans lequel vous êtes ou dans la surcharge mentale dans laquelle vous êtes aussi. Puis c'est là où je trouve que là, ça devient trop. C'est-à-dire que quand on a des bannières de consentement, mais qu'on veut accéder à quelque chose rapidement, je donne un exemple, on est sur un site d'information, il y a quelque chose qui grave qui vient de se passer, on va accéder tout de suite au contenu. Avoir ça, c'est comme une espèce de surcharge supplémentaire. Puis alors là, je ne parle même pas des étapes suivantes qu'on trouve par exemple dans le e-commerce, où on dit hey, « entrez votre email pour avoir 10% et, », etc. Cette surcharge mentale-là constante, moi je trouve que ça vient impacter grandement l'expérience utilisateur. Puis là, il n'y a pas forcément de cadre légal pour ça.
Mais c'est ça la grande question, parce que tu dis légalement, on est obligé d'obtenir l'acceptation du consommateur pour telle et telle chose. Mais à la fin, on ne l'obtient pas, parce qu'on sait très bien qu'il va passer puis il va l'accepter parce que c'est un réflexe puis parce qu'il veut passer à autre chose. Donc, on ne répond pas vraiment à la demande légale, non?
Ouais, si je peux ajouter là-dessus, c'est que... Non, mais... Parce que c'est une évidence. Tantôt, on parlait de consentement forcé, mais un consentement forcé, c'est pas un consentement. Je n'ai pas besoin de faire un cadre sur une explication que ce n'est pas un consentement. Là. Je pense qu'on est tous au courant ici, donc ça ne fonctionne pas. En droit, en pratique aussi, il ne faut pas oublier que quand tu poses la question, est-ce que c'est réglementé, la réponse est oui, parce qu'on parle justement de notion de consentement qui est différente d'une notion civile ou pénale, là, si on s'entend là-dessus. Mais aussi, dans le cadre d'un litige, parce que les clauses sont là lorsque ça ne va pas bien et qu'on est indifférent, le juge ou la juge va évaluer le consentement eu égard à l'utilisateur. Donc, si c'est... tantôt, je parlais avec Jean-François de Mme Ginette qui n'a aucune connaissance dans le droit ou les affaires, bien, elle, son consentement va être différent si elle cause une coche, je consens, de toi ou moi, par exemple, qui sommes des avocats ou des professionnels, puis qu'on sait exactement quand que j'accepte cette case-là, bien, elle peut m'en tenir. Donc, c'est pas réglementé, c'est réglementé, mais c'est toujours un code d'évaluation pour chacune des espèces qui va s'appliquer à l'utilisateur qui accepte le consentement. Donc, il y a cette complexité-là aussi, puis on parle d'accessibilité, on parle de rapidité, on passe vite dessus, mais je pense qu'au final, dans votre rôle à vous, au niveau du UX design, il faut déterminer c'est quoi le risque juridique d'accepter rapidement cet élément-là. Donc, si je clique et j'accepte sur une bannière de cookies, les impacts et le risque juridique pour l'utilisateur sont probablement moins que si je fais une transaction bancaire et c'est tout aussi rapide et tout aussi anodin. Donc, dans le cadre de votre pratique, il faut vraiment réfléchir et se mettre dans les pieds de l'utilisateur, savoir c'est quoi l'importance de l'action qu'il va poser. C'est quoi l'importance du risque qu'il accepte, puis quand que le risque est élevé pour lui, ou lorsque l'action a été importante, bien nécessairement, je pense que ça va partir aux designers du UX d'augmenter le niveau de difficulté pour s'assurer du consentement de l'utilisateur.
Ça répond bien à la question. Merci beaucoup. On peut passer à une autre question. En fait, on parle plutôt d'équité empowerment dans la contractualisation UX. Donc, il y a beaucoup d'articles académiques qui explorent la formalisation des normes pour rendre les contrats proactifs, justes et compréhensibles, particulièrement dans le design transactionnel, justement. Donc, ma grande question, c'est comment assurer que les plateformes juridiques soient accessibles, justement?
Au niveau de l'accessibilité, je pense que c'est peut-être moins mon créneau, peut-être plus le tien, mais si je peux me permettre, dans le cadre de Bastia, comme que j'expliquais, on prend du légal, puis on demande, on parlait d'empowerment justement, là, donc on demande aux gens dans le secteur de la construction de s'empower de le légal. Donc c'est des gens qui généralement, puis je ne vais pas faire de stéréotypes, mais pour la plupart de notre clientèle, c'est des gens qui ne sont pas tech-friendly, c'est des gens qui sont dans le secteur de la construction, avec des marteaux, des clous, des plombiers, des électriciens, ce n'est pas des gens qui sont ferrés en droit. Donc, au niveau de l'accessibilité, nous, on a rencontré plusieurs éléments difficiles, puis qu'on pensait que c'était une évidence, puis finalement, ça ne l'était pas. Ma plateforme, ça prend 3 minutes à remplir, tu marques la date de fin des travaux, la valeur de la créance, puis c'est qui ton client? Bien, ces éléments-là, pour moi, sont évidents. Mais pour mes clients qui utilisent la plateforme, une créance, ils ne savent pas c'est quoi. Une date d'échéance, la date d'échéance de quoi? De mon compte? Est-ce que c'est quand que j'émets ma facture? Est-ce que c'est dans les 30 jours quand que la facture est due? La date de fin de travaux, c'est quoi? Pour moi, c'est évident. C'était, hey, ça va être facile, ils vont remplir ça, 3 minutes, bang, c'est réglé. La réalité, c'est que c'est pas ça. Donc, il a fallu qu'on adapte aussi la plateforme en fonction de l'utilisateur. Puis là, vous n'apprendrez rien, de même que c'est probablement vous qui allez pouvoir m'en apprendre là-dessus. Puis j'aurais dû vous écouter avant de commencer ma plateforme, ce que j'ai pas fait. J'apprends de mes erreurs. Mais c'est difficile parce que cet utilisateur-là, qui a une littératie probablement plus faible qu'un universitaire, bien, il ne prend pas le temps de lire. La compréhension est limitée. J'y donne des tooltips, il ne les lit pas. Donc, la difficulté, puis l'art du UX, est c'est votre art de rendre ça compréhensible et accessible.
Merci. Oui, puis, tu sais, en plus, dans le concept d'accessibilité, c'est qu'on ne peut pas assumer comment sont les utilisateurs, parce que je disais tantôt, c'est complètement situationnel. Nous, dans un mandat de diffuseur public qui est encore plus large, on touche tout le monde. Donc, forcément, le langage utilisé, les icônes qu'on va utiliser, les termes en tant que tels, il faut qu'ils soient compréhensibles, mais surtout, il faut que... En réalité, c'est qu'à chaque fois qu'un utilisateur rencontre un système, peu importe lequel, un site web, n'importe, il faut qu'il s'habitue à cette interface-là. Puis c'est à partir de là, c'est tout là un peu l'art subtil du UX, c'est qu'il faut absolument tout de suite mettre à l'aise l'utilisateur. Ça, on parle juste de UX, là, on parle d'interface visible. Mais quand on parle d'accessibilité, il n'y a pas que ça. Là, c'est-à-dire qu'il faut que ma plateforme elle soit accessible aux personnes qui n'utilisent pas une souris. Il faut que ça marche sur mobile. Il faut que je puisse l'utiliser avec un lecteur d'écran. C'est vraiment infini. Cette notion-là de rendre à l'usager quelque chose de tangible et qu'il faut qu'il comprenne, je trouve que c'est quand même ce qu'il y a de plus difficile. Ouais. Surtout dans ton cas où on parle de documents légaux, c'est autre chose. Moi, j'ai une anecdote vis-à-vis de ça en termes de documents légaux. Depuis à peu près, ça va faire un peu moins d'un an, je suis rendu expert fonctionnel sur les contrats d'approvisionnement à Silicien au Canada. Que dire ? Il y a beaucoup de choses qui se passent sur un contrat. Et je trouve que des fois, c'est pas clair, volontairement pas clair. Puis, nous, on a essayé de faire du push, parce qu'on a dit, si on veut se mettre comme chef de file en accessibilité, parce que c'est un mandat qu'on s'est donné, il faut que l'industrie suive. Donc, il faut que dans les contrats, on retrouve ce que nous, on demande aux entreprises de faire. Puis là, on reçoit comme plusieurs un peu de pushback, de par le département d'approvisionnement, le département légal, pour dire « Ah ouais, mais on ne sait pas si on en est là, l'industrie n'est pas prête. » Puis c'est vrai qu'elle n'est pas prête. Sauf que si on veut se positionner comme un chef de file en accessibilité numérique et que l'industrie n'est pas prête, il va bien falloir qu'à un moment donné, on donne des normes pour dire faisons-le comme ça. Donc là, on se retrouve pas toujours. Il y a quand même des bons exemples. Mais des fois, dans des situations dans lesquelles il va falloir... En fait, on coach la compagnie à rendre ça accessible. Parce que nous, notre mandat, il est le même. Peu importe où on achète le produit, il faut qu'il soit accessible. En plus, maintenant, il ne faut pas juste qu'il soit accessible à l'externe, c'est-à-dire à audience facing, ce que l'on appelle. Il faut que ça soit aussi à l'interne. Parce qu'il y a des gens qui rendent du contenu, qui publient des images, plein de choses. Donc, c'est vraiment tout ça. Et donc, dans l'aspect légal contrat, moi, je trouve que des fois, il y a des clauses, puis là, vous allez pouvoir me guider, qui ne sont pas toujours très claires ou très loin dans les documents ou pas mis de l'avant. Puis, on s'entend que c'est un document interne, CBC Radio-Canada. Nous, on a mis en place des normes sur comment monter des documents pour les rendre accessibles à l'interne. Mais c'est là où on a beaucoup d'enjeux. C'est-à-dire que souvent, un contrat, il n'est pas forcément bien mis en forme. Ou en tout cas, peut-être bien mis en forme du côté légal, mais pas du côté usager. Donc, c'est ça. Mais je suis curieux de vous entendre là-dessus.
C'est drôle que tu fasses la distinction entre du côté légal versus du côté usager, dans la mesure où l'idée même d'avoir un contrat, c'est que l'usager comprenne ce qu'il signe pour assurer un bon consentement. Et là, il y a souvent cette mauvaise conception là, que le droit, c'est une forme d'incantation magique qui doit absolument être incompréhensible pour être valide. Là. Puis, je ne blâme pas les avocats parce qu'ils sont occupés. Ce n'est pas une critique des avocats de Radio-Canada, ni des avocats en pratique privée. Les gens sont occupés. Mais ça prend de l'effort pour prendre une clause illisible et la rendre lisible. Puis, ben, le client, y a-t-il un budget pour que j'y prenne son document de 50 pages puis qu'on le convertisse en langage clair, ce dont je ne suis pas par ailleurs un expert, là. Mais la réalité, c'est que toute loi, tout terme et condition, tout contrat, si on faisait l'effort de le faire, pourrait être traduit dans une langue qui est lisible. Il n'y a rien qui prescrit qu'un contrat ne doit pas comprendre aucune infographie, tableau, flowchart pour expliquer son contenu aux parties par ailleurs. Donc, c'est pas obligé d'être du texte noir sur blanc le plus dry possible. C'est possible d'intégrer des figures, des éléments visuels qui vont aider les parties à interpréter le contenu puis à s'assurer que le consentement est bon. La difficulté vient du fait de s'assurer que le flowchart, par exemple, ne va pas dire le contraire de ce que la clause dit, mais normalement, c'est un effort qui peut être fait. C'est difficile, là, mais un avocat qui vous rend quelque chose qui est incompréhensible, il n'a peut-être pas fait sa job tant que ça, finalement. Donc, c'est un peu ça. Tu as été paresseux parce que normalement, je devrais comprendre ce que je signe. Mais je ne dis pas que c'est facile. La bonne nouvelle dans ça, puis on y arrivera sans doute, là, mais je ne sais pas si ça va être une question dédiée.
Ah, mais vas-y.
Je pense que l'IA générative, c'est pas une panacée pour tout, puis là, on ne prend pas le débat de est-ce que c'est bon ou pas bon pour la société. Mais en termes d'être capable de prendre des contenus incompréhensibles et de créer des vues dérivées, donc que la version incompréhensible soit une des vues qu'on génère à partir des obligations contractuelles qu'on a paramétrisées, et qu'il y ait aussi une vue qu'on puisse générer, donc que le contrat noir sur blanc, là, c'est comme une émulation d'une tranche de papier en PDF. Là. On fait encore comme si on slicait des arbres, alors qu'on a arrêté de faire ça il y a longtemps. Puis le format du contrat est dicté par le fait qu'on imprimait ça sur du papier 8,5 par 11, alors qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui oblige ça. Ça pourrait être une structure de données, ça pourrait être autre chose. Donc ça, il y a vraiment un moment où je pense qu'avec on est à un point dans la technologie où on a probablement les outils pour mieux communiquer, puis peut-être même utiliser l'IA générative pour s'aider à s'expliquer ce qu'on fait à travers les différentes professions.
J'ajouterais aussi que il vous appartient vraiment de poser des questions. Nous, les avocats, là, on est habitués, c'est une déformation professionnelle, mais on est habitués à voir du risque et à le minimiser. Quand le client il rentre dans mon cabinet parce qu'il veut un contrat, il ne veut pas un contrat faible. Il va me dire, donne-moi un contrat béton, je vais le protéger. T'sais, c'est ce qu'il veut. Puis nous, dans le cadre de notre formation, on a lu des jurisprudences, on a lu où ça ne va pas bien, puis sont où les risques. Puis mon rôle, dans le cadre du mandat qui m'est souvent donné, c'est de m'assurer que ces risques-là sont minimisés. Même si j'ai le meilleur des contrats, il y a toujours un risque. Puis même si les risques sont minimisés, puis que même la partie adverse n'a pas raison, il pourrait quand même me poursuivre. Il y a toujours un risque. Vous, de votre côté, lorsqu'un contentieux vous livre un contrat, posez des questions. Pourquoi cette clause-là? Pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué? S'il n'y a pas de manière de la réduire, il va être capable ou elle va être capable de le faire, je vous le garantis. C'est juste que, comme on disait plus tôt, ils sont paresseux. Ils prennent des contrats qu'ils ont déjà utilisés. C'est ça la réalité. On prend des contrats qu'on a déjà fait ailleurs. On prend des clauses qu'on a vues dans des jurisprudences. On les incorpore. On vient limiter votre risque avec la connaissance qu'on a bâti pour limiter votre risque. Posez des questions. Je donne un exemple concret de ce qu'on a fait chez Bastia. On a des terms and conditions complet, puis je me suis posé la question, qu'est-ce qui est important dans mes conditions d'utilisation, puis honnêtement, je suis arrivé à 5 clauses. 5 clauses qui, selon moi, dans mes 10 années de litige, étaient pertinentes. C'est facile. Combien est-ce que ça va me coûter? Qu'est-ce qui va être acheté sur ma facture? Si je veux arrêter mon contrat, comment est-ce que je peux le faire? C'est quoi ma responsabilité, puis c'est quoi les services qui sont offerts? Give or take, là, c'est ça. Si demain matin, je veux un forfait à, je ne sais pas, de 5, 10, 15 000 piastres ou whatever, puis j'ai un contrat avec 5 clauses dedans, jamais ce client va voir me donner le mandat. Fait qu'il y a une réalité aussi commerciale où est-ce que si j'arrive avec de quoi qui est tellement simple, qui pourtant est l'essentiel, ça va m'être refusé parce que ça n'aura pas l'apparence d'être sérieux. Donc, il y a ce volet-là aussi de réalité commerciale. T'sais, on dit on veut l'adapter, mais finalement, c'est pas facile. Ce qu'on a fait, nous, puis ça peut peut-être être un exemple, c'est qu'on a fait une fac. Donc, c'est niaiseux, mais en haut de mes terms and conditions, on a ajouté un FAQ, dit, hey, c'est quoi les 5 clauses, sont où dans le contrat, clac, clac, qu'est-ce que ça veut dire en français, qu'est-ce qui va arriver, puis si tu veux plus d'informations, va là. Mais même moi, comme avocat, quand j'ai rédigé cette FAQ-là, c'était contre mon réflexe professionnel parce que on va dire que là, il y a deux clauses qui sont possiblement en contradiction, puis un juge pour interpréter une des deux clauses en faveur de la personne qui me poursuit. Mais ça, c'est la réalité du risque. Au final, là, moi, comme product owner, c'est à moi qui appartient de dire est-ce que j'accepte ce risque-là. Puis c'est vraiment votre responsabilité à vous de faire ce travail-là, savoir c'est quoi le risque, puis est-ce que je l'accepte parce que le risque zéro, ça n'existe pas.
Mais ça tombe à justement ne pas vouloir de prendre de risque. On revient donc à la prose typique d'avocat pour justement éviter ce risque-là, éviter cette mécompréhension-là. Parce que quelle entreprise va vouloir prendre un risque en disant « je vais réinterpréter certaines clauses ou je vais le simplifier justement pour… »
En présumant une infinité de temps, puis il n'y a aucune clause juridique qui ne peut pas être traduite dans un langage qui est compréhensible. Accessible. Après ça, c'est une question d'effort, c'est une question de budget, tu sais, puis j'espère qu'on va y arriver, là, puis en tout cas, moi, je crois beaucoup à la multidisciplinarité puis à ce genre de conversation-là pour un peu sortir les avocats des départements juridiques, interagir avec d'autres mondes, que les cabinets d'avocats aussi commencent à intégrer des professionnels d'autres professions pour adresser ces questions-là. Je pense que la technologie va aider à nous rendre là. Ça ne se fera pas en criant ciseaux, mais je ne crois pas au fait qu'il y a une seule façon incompréhensible de dire quelque chose pour que ça marche dans un contrat et que ça soit parfaitement dérisqué, impossible.
J'ajouterais, si tu permets.
Je permets.
Merci. C'est d'agir comme leader. C'est vraiment ça. C'est de ne plus avoir peur et d'agir comme leader. Moi, comme business, qu'est-ce que je vais avoir là auprès de ma clientèle? Est-ce que je veux arriver avec un contrat, qu'on va dire, d'adhésion, un 16-pager, mettre les initiales partout, signe en bas, ou est-ce que je vais arriver avec un contrat clair? Puis, est-ce que, au contraire d'être un risque, est-ce que ce n'est pas un avantage concurrentiel avec la compétition? Je pense qu'on peut le voir comme ça. Puis, ça rentre dans l'aspect de multidisciplinarité, si je l'ai bien dit comme il faut, de sortir les avocats des contrats, puis utiliser le légal comme un avantage.
C'est bien que tu parles d'avantage concurrentiel parce que, tu sais, en activité, c'est la même chose. Si on fabrique une plateforme, on montre quelque chose puis que ce n'est pas accessible, ben concrètement, déjà, de facto, il y a 10% de la population qu'on se met à dos, à peu près. Fait que c'est sûr que rendre une plateforme accessible, ça peut aussi être un avantage concurrentiel. Fait que c'est vraiment aligné avec ce que tu disais.
Un bref exemple là-dessus, là, à défaut d'en avoir d'autres, là, mais c'est les licences Creative Commons, où, en théorie, c'est des licences de propriété intellectuelle. C'est compliqué, des documents comme ceux-là, mais ça fait plus de 15 ans au moins qu'ils sont capables de distiller l'essence de ces attribution share alike, les paramètres clés de chacune de ces licences-là, puis comment elles sont démembrées, sont représentées par des icônes que, en 30, même pas 30 secondes, c'est un effort visuel immédiat presque, de savoir qu'est-ce qui est couvert par ça. Rien qui interdit de mettre des icônes comme ceux-là, de résumer les contenus. Puis ça, c'est un bon exemple de réussite en matière de distiller quelque chose de, par définition, très compliqué, en quelque chose de digeste pour un public raisonnablement éduqué. Là.
Merci. Mais là, vous avez anticipé toutes mes questions, mais j'en ai une dernière. Avant, je ne devrais jamais rencontrer mes panélistes avant la rencontre. Est-ce qu'il y a des questions du public avant que j'arrive avec ma dernière question? Oui!
Fascinant comme discussion. On parlait à la première moitié là, des bannières GDPR. Le prochain monstre similaire se montre un petit peu ces temps-ci. Ça prend la forme des vérifications d'âge dans les pays, je pense la Grande-Bretagne, l'Australie, les pays qui vont commencer à bannir les médias sociaux pour les gens en bas de 14-15 ans. Toutes sortes de sites qui réclament une vérification d'âge. Ça va avoir un poids légal au niveau de ben, si tu veux faire affaire dans mon pays pour telle affaire, tu as besoin de vérifier l'âge de tes usagers. Le prochain saut logique est similaire à ce qu'on a discuté, c'est qu'il va y avoir des compagnies tierces qui vont fournir ce service-là, qui vont être accessibles ou pas accessibles. Il y a tout l'aspect, mon Dieu, sécurité. S'il était pour avoir une fuite de données avec non seulement des boîtes à cocher de consentement, mais là, on a les visages, les cartes d'identité des gens, les photos de leur passeport. Avez-vous des opinions, des peurs, des incertitudes sur ce monstre qui est à l'horizon?
Ben en fait, ça parle vraiment de tout. Moi, j'ouvrirais la question avec tout ce qui est données personnelles.
Faut que je fasse attention pour pas avoir l'air de libertarien, mais ça, je trouve ça désastreux comme promesse. Extrêmement dangereux par ailleurs. Je trouve que le droit de la vie privée a tendance à penser qu'il est une solution magique à tout type de fuite de données, là, parce qu'on rajoute du droit dans ça. Alors que la réalité pratique, c'est que les gens qui attaquent les honeypots potentiels, ben, ils s'en foutent du droit de la vie privée. Ils habitent dans des juridictions qui ne sont pas couvertes par notre droit de toute façon. Donc, ils continuent d'avoir des menaces qui viennent de l'étranger. Puis, ce qui est arrivé aussi depuis les attentats du 11 septembre et la faillite d'Enron, c'est que nos gouvernements ont dit, bon, ben OK, il y a du danger avec le terrorisme, il y a du danger avec la fraude. Donc, on va demander aux institutions financières de colliger toutes les informations possibles et imaginables pour que tu puisses faire quoi que ce soit. Bien, qu'est-ce que vous pensez qui arrive après ça? Et là, qu'est-ce qu'on dit? Ah, bien là, il y a des fuites de données, c'est épouvantable. Bien oui, c'est toi qui as demandé qu'on récolte toutes ces données-là, in the first place. Et là, après ça, tu vas rajouter un cadre réglementaire incompréhensible pour pallier au problème que tu as créé au départ. Il y a une culture sur le web où moi, je m'étonne que si je veux m'abonner au New York Times, je dois donner mon adresse. C'est pas un produit que je reçois à la maison, là. Il n'y a aucune espèce de pertinence à mon expérience, à ce que je donne mon adresse. Et on a beaucoup le réflexe de colliger beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de données. Et ça va être un capharnaüm avec des catastrophes très évidentes. Moi, c'est ce que j'ai à dire là-dessus, mais malheureusement, je suis même pas proche d'être un poids-plume dans ce débat-là. fait que oui, à 100%. Puis si j'ai tendance à au moins dire une chose, c'est que dans le design des expériences, souvent réfléchissez à est-ce qu'on a bel et bien besoin de cette donnée-là pour le service qu'on veut rendre et minimiser la donnée qu'on veut colliger autant que le gouvernement nous permet de le faire.
C'est une façon aussi de vendre les données par la suite. Fait que pour certaines compagnies, c'est pas nécessairement parce qu'ils en ont besoin, mais c'est quelque chose qu'ils peuvent ensuite...
C'est un enjeu en soi, là, mais on a bâti une culture où c'était normal de tout dire à propos de tout ce qu'on fait. C'est curieux quand même comme résultat, puis on a exposé beaucoup, beaucoup de gens à des risques, puis on va continuer de le faire.
Faut pas oublier que dans la loi, c'est exactement ce qui est prévu. En ce sens qu'on peut pas collecter des données. Tu sais, tantôt, on parlait initialement de corpus légal, etc. La loi, elle précise déjà qu'on peut juste exiger comme renseignement personnel ce qu'on a besoin pour atteindre le but. Donc, c'est déjà une norme légale. Maintenant, dans l'application, c'est free-for-all parce qu'il n'y a pas de coercition. Donc, c'est ça la réalité. Donc, ça, c'était mon opinion sur cet élément-là. Mais aussi, je voulais juste revenir sur l'élément des vérifications d'âge. Puis, je pense que autant que ça a l'air d'être un frein, que ça va être compliqué, puis que ça risque d'avoir une certaine complexification des processus actuels, demeure que c'est peut-être important que ça soit compliqué de par la nature de l'importance de s'assurer de la vérification d'âge pour avoir accès à ces plateformes-là. Donc, il y a vraiment le volet de dire, ben oui, c'est une étape de plus qui va être lourde, mais en même temps, elle est lourde parce qu'elle est importante. Donc, quand on est un designer UX, faut garder ça en tête et pas toujours viser l'accessibilité ou la rapidité.
Oui, puis j'ai bien hâte de voir ces plateformes-là. Je sais qu'il y en a déjà un peu, là, j'en ai pas trop utilisé moi-même. Mais en termes d'accessibilité, si on te demande de scanner ta pièce d'identité, par exemple, ça va être épouvantable.
Qui accepte?
Rendu là, c'est mieux de générer ta pièce d'identité par AI et de l'uploader dessus. Enfin, bonjour la fraude, ça c'est un... tu sais, il y a... Dans l'aspect complexifier un processus parce que c'est important, moi je dirais oui et non, puis parce que je suis assez... comment je pourrais dire? Pour moi, je trouve que c'est très important de rendre c'est un consentement en soi accessible. C'est-à-dire que si c'est compliqué, c'est pas forcément non accessible. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des processus qui sont très compliqués, mais qui en fait sont accessibles. j'ai pas d'exemple en tête là, mais je sais pas, moi, si par exemple on vous dit de générer un document ou un contrat, puis il y a énormément d'étapes, puis vous devez les suivre, mais si toutes ces étapes-là sont claires, vous comprenez bien ce que vous faites, vous savez où vous en êtes tout dans le processus, puis on top of it, c'est complètement accessible sur les technologies d'assistant. Moi, j'ai pas de problème avec ça.
Bien, c'est une des techniques qu'on utilise en design, justement, de rajouter ces étapes, juste pour être sûr qu'ils valident, puis revalident, puis sûr qu'ils s'en vont au bon chemin. Ceux qui veulent ça faire vite en général, puis qui ne lisent pas, ils vont le lâcher avant. Donc, c'est une façon de, effectivement, le rendre un petit peu plus compliqué, tout en le gardant accessible.
Qui es-tu?
Je m'appelle Célia, moi, je suis étudiante en DESS, entrepreneuriat et design. Et je me demandais juste, depuis le début, vous parlez beaucoup par rapport aux designers. À quelle fréquence, chacun dans votre contexte, vous avez l'occasion de voir les designers travailler avec le légal? Parce que de quelques expériences professionnelles, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait beaucoup d'échanges. Est-ce que un designer lambda, comme on va le devenir d'ici peu, est-ce que nous, on aura les connaissances suffisantes pour, par exemple, faire des ateliers de co-création avec la partie plus légale? Ou est-ce qu'il faudrait qu'en tant que designer, on soit déjà dans une recherche de formation sur le côté légal pour être pertinent d'un côté?
Eh bien, tu as anticipé ma dernière question. Et c'était un peu la question, mais je vais la reformuler. Donc, effectivement, on dit beaucoup qu'on devrait... on n'est pas vraiment formé, puis on se pose, est-ce qu'on devrait l'être? Est-ce qu'on devrait le rajouter dans le cadre pédagogique? Et donc, ma question, c'est quel contenu et format pédagogique faut-il développer pour former une nouvelle génération d'UX sensible au droit?
Oui, ben en fait, pour répondre à ta question, je te dirais, aller chercher la formation du côté légal, je ne pense pas que ça soit vraiment utile. Par contre, qu'est-ce qui va être utile en tant que designer, c'est justement de se rapprocher département légal, travailler avec eux, comprendre leur réalité aussi, puis pouvoir comme se l'approprier. Qu'on arrive à un design qui fait du sens autant en termes de contenu que des qualités que autres. Par exemple, on s'entend, les designers à Cybercanada, ils savent ce qu'ils font en termes d'accessibilité. S'ils ont besoin, s'ils ont des questions spécifiques, ben, ils vont contacter notre département. Mais en même temps, c'est à nous aussi d'être présents dans les validations de ces designs-là. Donc, moi, là-dessus, je dirais que c'est vraiment une balance. Puis, un designer, selon moi, ça fait partie d'un ensemble. Là, on va parler d'équipe pluridisciplinaire. Vous ne pouvez pas faire votre design dans votre coin. Il va falloir que vous parliez aux développeurs, aux gens du légal, aux gens de contenu, aux utilisateurs finaux, si on parle de produits internes. L'accessibilité, bien entendu, mais c'est vraiment de communiquer. Moi, je trouve que là où on a le plus d'impact, nous, en termes d'accessibilité, c'est justement de travailler avec des designers. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont... ce que je vais appeler, excusez-moi l'anglicisme, design-driven. C'est-à-dire que si, pour X raison dans mon design, je décide que, ah ben oui, mais c'est mieux comme ça, puis je vais ajouter tel élément, ben cet élément-là, c'est quoi l'implication qu'il a en arrière? C'est quoi l'implication qu'il a en termes du développement? Comment est-ce qu'on va le suivre en termes d'accessibilité? C'est vraiment, moi je dirais, il faut partager votre design. Je vais reprendre une citation qui n'est pas de moi, qui est de... Bon, là, j'ai un blanc de mémoire, en fait, c'est magnifique. Je dirais non, par contre, le design, ce n'est pas une île. Hein. Vous n'êtes pas tout seul dans votre île déserte à faire vos petites affaires. Il faut vraiment être complètement intégré, puis je pense que c'est là où vous avez votre pleine valeur puis votre plein potentiel. Fait, moi, c'est ce que je prônerais...
Si je peux me permettre, j'abonde dans le même sens, en fait, donc d'apprendre la légalité et toutes ses particularités. La réalité est que chaque cas, comme que je mentionnais plus tôt, est un cas d'espèce, donc il peut y avoir une question de droit de la protection du consommateur dans une question, puis il peut y avoir une question de consentement dans une autre éclairée. Il peut y avoir une question de particularité quand on est dans un secteur hautement réglementé, comme par exemple le droit bancaire. Donc, de suggérer qu'une personne qui fait du UX ou du design ou peu importe doit connaître toutes ces lois-là, bien, je pense que c'est utopique. Puis, à l'opposé, moi, comme avocat, je ne devrais pas faire du design UX non plus parce que ce n'est pas ma spécialité. La réalité est que tous et chacun, on a notre spécialité. Puis, je pense que le réflexe que les UX designers devraient avoir, puis ça, je pense que ça va aussi s'apprendre avec le temps. Donc, quelqu'un qui sort de l'école, par exemple, qui n'en a jamais fait, versus celui qui est dans un domaine particulier comme à Radio-Canada, que ça fait 10, 15, 20 ans, peu importe, qui travaille dans le domaine des médias ou peu importe, mais il va développer une certaine connaissance de qu'est-ce qui est important au niveau légal aussi, sans nécessairement devoir connaître les lois. Il va avoir ce réflexe-là, il va avoir cette compétence-là d'évaluer le risque et l'importance d'une action particulière. Puis c'est à lui, à ce moment-ci, d'aller vérifier, selon moi, en amont, avec l'équipe pluridisciplinaire, comme autant le dev que le légal, que peu importe, pour s'assurer que tout est correct, puis aussi pour éviter à devoir refaire le travail si on s'avance trop longtemps puis que finalement, ça ne respecte pas les prescriptions légales.
Sur ce point-là, brièvement, moi, je suis persuadé, puis quitte à avoir l'air du gars qui tripe sur l'IA générative, ce qui est un peu le cas, bien que je ne suis pas naïf quant au fait que ça vient aussi avec des downsides, mais l'industrie juridique est une des industries où ça a le plus de potentiel. Mm-hmm. C'est du texte qui, même si on le critique, on dit qu'il était compréhensible, dans le spectre du langage humain. Bien, si à gauche, on a les gens qui ont une discussion dans un bar un peu échevelé, et à droite, on a le code informatique, le langage juridique est pas loin de la droite en termes de la façon dont il est structuré. Ouais. Un contrat, ça ressemble quand même un peu à du code informatique. Au lieu de programmer le comportement d'une machine, on programme le comportement des parties. Mais c'est la même chose. S'il se passe ça, on va faire ça. T'sais, ça ressemble à de la programmation. Donc, c'est une industrie qui va être touchée par ça. Vous n'êtes pas obligé de me croire là-dessus, mais c'est ma prétention. Ce qui fait en sorte que le modèle d'affaires des cabinets d'avocats, la façon dont les contentieux juridiques opèrent, va être transformé et on va finalement passer d'une profession juridique où c'est juste des avocats dans les cabinets qui pratiquent de façon artisanale. Les avocats, encore aujourd'hui, ils ont de la technologie, on utilise le courriel, on utilise Word, mais un avocat qui pratiquait il y a 100 ans, il ne serait pas si perdu que ça dans notre bureau encore. Il reconnaîtrait les mêmes processus, les mêmes façons de faire. Avec l'IA, on commence à avoir finalement une façon de développer des processus juridiques, des produits juridiques. Ta business en est un très bon exemple où finalement, il va avoir une opportunité de collaborer dans des deliveries de services juridiques qui vont être multidisciplinaires puis qu'il va avoir des gens qui vont collaborer ensemble. Puis j'ai hâte qu'on décloisonne ça parce que je pense que ça va être à l'avantage de la société que le droit ne soit pas en vase clos, caché dans le coin de la business, dans le contentieux ou dans un cabinet juridique où ça a l'air d'une bande de sages que personne ne comprend ce qu'on fait.
Ah, il y a trois questions, mais vas-y. Mais je voulais peut-être rajouter une petite chose juste pour rajouter. Alors, on a souvent aussi cette impression d'être un peu l'imposteur quand on a un UX parce qu'on arrive dans peu importe le milieu qu'on arrive, on ne connaît pas. T'sais, on travaille chez Hydro-Québec, on n'est pas celui qui monte le poteau électrique et qui fait les calculs pour savoir si ça fonctionne. Donc, est-ce qu'on peut travailler puis développer une application pour eux? Oui, c'est ça l'idée. Donc, peu importe dans le milieu, il ne faut pas connaître nécessairement le milieu, il ne faut pas connaître toutes les détails de la profession ou du métier dans lequel on travaille. Il faut juste être à l'écoute. Et puis ça, c'est une de nos forces en tant que designer, c'est être à l'écoute, faire de l'empathie, comprendre bien la situation. Puis avec ce regard naïf, parfois, on arrive justement à poser les bonnes questions puis à savoir le synthétiser puis le simplifier. Donc, il ne faut pas avoir peur, si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'y aller et de poser juste les bonnes questions.
Bonjour, moi c'est Salma. Je fais de la recherche dans le bien-être numérique, justement pour voir comment les internautes ils peuvent profiter de tout ce qui est numérique, tout en respectant bien sûr les données personnelles, puis surcharge cognitive, etc. qu'on va trouver en ligne. Puis j'ai deux questions qui vont être un petit peu complémentaires. La première, c'est comment nous, comme individus qui ne sont ni dans le design UX, ni dans le légal, on peut se protéger, comment on peut accéder à l'information. Et ma deuxième question, c'est par rapport à la vraie responsabilité vis-à-vis les données qui sont collectées. Justement, les sites, ils sont par exemple hostés sur des web, sur des navigateurs de recherche comme Google. Et Google, avant de venir pour opérer ici au Canada, il avait déjà passé par des processus de réglementation pour genre avec le Canada puis avec le Québec, pour pouvoir collecter des données. Puis Google, elle va par la suite appliquer ses réglementations sur les sites. Donc on se pose vraiment la question, c'est qui est le responsable? Est-ce que c'est le designer, ou bien c'est le site, ou bien c'est Google, ou bien etc., etc. On va aller vers le gouvernement. Est-ce que le gouvernement aussi doit, dans ce point-là, appliquer des restrictions sur les navigateurs de recherche qui vont par la suite réglementer et protéger les citoyens qui sont des citoyens de ce gouvernement?
Donc qui est imputable?
C'est pas si dur d'avoir un
Il y a une décision qui est sortie récemment. Je pense qu'il y avait une nouvelle dans la presse justement aujourd'hui. AB contre Google. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Où on a retrouvé l'imputabilité de Google pour continuer à indexer certains éléments dans son moteur de recherche alors que l'individu voulait être désindexé. Puis je pense que ça fait vraiment un contraste avec les dernières années où est-ce qu'on a vu que ces gens-là souvent étaient non imputables parce qu'ils se disaient que ben, moi je suis pas créateur de contenu, je contrôle pas le contenu, je fais juste le laisser disponible. Donc on voit qu'il y a quand même récemment un changement dans la façon de tenir ces grands joueurs-là imputables. Donc ça c'est une partie de ta réponse, mais il y avait plusieurs éléments dans ta question. Je ne sais pas si tu veux ajouter sur...
Ben c'est drôle que tu parles d'indexation parce que chez Cali, c'est un des enjeux. Peut-être que je peux juste dire une anecdote et on verra si ça répond. Là, mais, mais l'indexation, par exemple, dans le contexte de Cali, c'était... puis peut-être c'est une bonne illustration de où la zone de risque se trouve, puis elle n'est pas toujours dans le droit. Quand Canly a commencé, c'était la première fois que les décisions de justice étaient publiées sans restriction sur Internet. Avant ça, trouver des décisions de justice, il fallait que tu ailles soit à la bibliothèque du barreau ou à la cour ou au greffe de la cour ou sur des sites qui coûtaient très cher parce que leur clientèle, c'était les cabinets d'avocats qui étaient les seuls à avoir un vrai use case commercial pour consommer ces contenus-là. Donc, il n'y a aucun membre du public qui s'abonnait pour payer 1 000$ pour consulter les décisions de justice. Fait que quand Canly est arrivé, la magistrature a dit « Bien, on veut-tu vraiment faire ça? » Parce que les gens viennent nous raconter leurs histoires. Et ce qui a été négocié avec la Cour à l'époque, c'est une règle selon laquelle l'indexation dans les moteurs de recherche allait être interdite. Donc, ils utilisent robots.txt pour les bannir. En théorie, ils peuvent bypasser ça, mais ils le respectent et les contenus ne sont pas indexés. Si moi j'ai une décision à mon nom dans Canly, la décision, si tu connais Canly et tu sais que ça existe, bien, tu vas aller chercher dans Canly ta décision, mais elle ne sera pas dans les résultats de recherche Google pour la même chose. Et ça fait une énorme différence. Et on l'a vécu quand, quelques années plus tard, il y a quelqu'un en Roumanie qui a téléchargé des milliers de décisions et a scrapé des décisions sur le site de Canly dans le but de bâtir une business essentiellement de l'extorsion. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il a bâti un faux site qui semblait être un site de nouvelles, donc avec une sorte de fausse légitimité journalistique. Son site s'appelait Globe24H, donc donnait l'impression que c'était de la vraie nouvelle légitime, mais il n'y avait aucune interface. Dans le fond, tout son site était vraiment fait pour être indexé par les machines. Et là, les gens paniquaient parce que là, que tu cherches dans Google et que le premier résultat de recherche, c'est une décision peut-être en droit criminel ou même si ça prend 200 paragraphes et le juge a dit « t'es pas coupable », les accusations étaient complètement farfelues. Ben, good luck pour te trouver une job si tu as une décision en droit criminel contre toi, ça vient avec des genres de soupçons. Good luck pour avoir du succès sur Tinder si les gens googlent ton nom, ben, le premier résultat qu'ils voient, c'est une accusation en droit criminel. Et les gens faisaient des plaintes au commissariat à la vie privée, ils nous ont dit que ce sont les plaintes parmi les plus agressives qu'on a eues dans notre carrière. Ouais. Les gens ont détesté ça. Il y a eu, et les autorités en matière de vie privée ont réussi à travailler avec Google pour désindexer les contenus. Ils ont pris ça très au sérieux. Ils ont collaboré avec les autorités en Roumanie pour aussi faire take down le site là-bas aussi. Donc, c'est une anecdote, là, je ne sais pas si ça répond, mais ça donne un exemple un peu que finalement, la zone de risque n'était même pas en droit. Parce qu'en théorie, là, il n'y a aucune interdiction jurisprudentielle ou légale à ce que ces contenus-là étaient indexés dans les moteurs de recherche. C'est un compromis qui avait été trouvé avec la magistrature, qui était d'une grande sagesse parce que 10 ans plus tard, ben, l'exemple de la Roumanie a démontré que c'était là qu'était le vrai risque. C'est est-ce que c'est le premier résultat Google quand tu cherches mon nom?
Sur ta question initiale, tu disais comment est-ce qu'on oublie le légal, on oublie les designers, comment est-ce qu'individuellement on peut se protéger? je pense que Xavier a eu ma réponse, mais je pense que ChatGPT, Gemini, etc., c'est vraiment le meilleur quick fix que chaque individu peut avoir. Donc, quand il rentre dans, sur un site internet, on lui demande est-ce que tu acceptes X ou Y, terms and conditions, mets ça dans le chat, qu'est-ce que je dois savoir, puis normalement, 9.8 fois sur 10, ça va être excellent. Là, ça va vraiment vous permettre d'avoir un consentement libre et éclairé sur ce que vous acceptez. Aussi banal que ça peut avoir l'air, je pense que c'est vraiment le meilleur truc.
Dernière question?
Bonjour, mon nom est Hélène Sirois. Moi, je suis architecte UX depuis 33 ans dans la pratique et aussi rédactrice UX. Et j'ai travaillé beaucoup dans les médias, entre autres chez Téotron, que tout le monde connaît, Télé5 et tout ça. Et beaucoup travaillé aussi en commerce électronique. Quand il arrive les notes légales, la consigne en général qu'on a, c'est on ne touche pas à la note légale. Donc, moi, j'aime beaucoup l'idée de pouvoir les reprendre. Et ça fait que comme UX, on en parle très souvent de ces messages-là. Et qu'on pense que c'est important de faire quelque chose. L'enjeu actuel, ça vient probablement de ce que vous avez mentionné tout à l'heure, c'est de savoir qui va être protégé. Si nous, on transforme pour que ce soit lisible, clair, raccourci, facile à lire, facile à mémoriser et savoir qu'est-ce qu'on signe exactement. Donc, l'idée d'avoir le ChatGPT peut-être comme ça dans les plateformes où est-ce qu'à ce moment-là, si c'est généré par ChatGPT ou Claude ou quoi que ce soit, est-ce que nous, on est responsable d'avoir mis cet outil-là ou c'est eux qui restent responsables? Le point, une fois qu'on a touché à quelque chose, ça fait que les UX, en général, se plaignent.
L'adresse qu'on vous demande de rentrer, c'est pas les UX qui disent qu'il faut que ce soit là. C'est le monde des affaires.
Ah oui, c'est sûr. C'est ça.
Fait que nous, ce qu'on peut faire, par contre, moi, j'ai travaillé beaucoup sur des gros projets en ça, puis en Europe aussi. Et ben, je vais juste dire aux jeunes designers qu'on a un pouvoir d'influence. Mm-hmm. Et que tout à l'heure, ce qu'on disait, c'est qu'il faut travailler avec tous les paliers. Les architectes, les TI, les gens d'affaires, les CEO, les besoins corporatifs versus nous, ce qu'on doit offrir à nos clients. Puis toujours leur rappeler que si ce n'est pas clair, ben, s'ils investissent 200 000 et finalement les gens s'en vont, mais ils ont perdu 200 000 parce qu'ils nous ont pas écouté.
Moi, ce que je vous inviterais à faire, c'est prenez la clause compliquée, mettez-la dans un outil d'intelligence artificielle, demandez-lui de la simplifier, puis questionnez l'avocat à savoir pourquoi est-ce que votre version n'est pas bonne. Vous allez être surpris de la réponse.
Moi, je fais ça quand je reçois mes
contrats
d'assurance.
C'est ça.
Non, mais
pas pour les comprendre, mais pour les rédiger. Oui. Donc, poser des questions, puis suggérer des alternatives, puis honnêtement, là, je pense que 9 fois sur 10, ils vont rien dire, puis ils ne sauront pas pourquoi leur clause à eux est meilleure. La réalité, c'est que c'est vrai ce que vous aviez dit, c'est juste des normes conditionnelles qu'on met dans un contrat et ça revient de la programmation. C'est ça la réalité. Mais si personne ne le comprend, qu'est-ce que ça vaut au final? C'est ça qu'il faut se poser. Ça vaut rien. Mais je pense que vous allez personnellement, puis peut-être que vous allez avoir des opinions différentes, mais la solution à votre problème n'est pas le département légal. Moi, je pense que c'est en haut du légal.
C'est
le CEO, lui, qu'est-ce qu'il veut? Puis il faut lui vendre l'accessibilité, la transparence, puis le langage clair. Parce qu'une fois que lui va avoir cette décision-là, il va dire à son légal, dire « Hey, c'est ce que je veux », puis « Get it done ». Mais c'est lui qu'il faut convaincre. L'avocat, je vous le dis, c'est une déformation professionnelle, on a peur de tout. Fait qu'il faut, il ne voudrait pas vous donner ce que vous voulez, mais si vous convaincrez d'avoir un avantage compétitif sur la compétition avec des clauses claires,
on parle de clarifier les normes, des éléments compliqués. Il y a l'accessibilité universelle, que ce soit toute limitation, mais aussi pour les buildings et tout ça, parle de langage clair qui est compréhensible par l'ensemble des personnes. Donc, de venir simplifier des contrats légaux, ça vient bonifier l'accessibilité de manière globale aussi. Donc, je pense que comme UX, on a tout à gagner de prendre des alliés et de venir simplifier tout ça.
J'aime bien ça. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose vis-à-vis du design universel, justement. Le design universel, ça part souvent... Il y a un exemple pour ça, là, c'est, vous savez, là, au niveau des trottoirs, là, quand c'est rabaissé, bon, à la base, c'est fait pour les fauteuils roulants. Mais on s'entend que vous êtes bien content de le trouver, bah, pas là en hiver, parce que c'est plein l'eau, là, mais vous êtes bien content de le trouver quand vous avez des bagages lourds, ou que vous avez une poussette avec un enfant, ou autre chose. Ça, c'est un exemple que nous, on met de l'avant en termes de ça, c'est un design universel. Après ça, appliquer ce concept-là ou en créer des nouveaux, spécifiquement dans le digital, ça peut être un peu plus compliqué, mais je pense que si on garde ce but-là en tête tout le temps, c'est vraiment un bon driver. C'est là où, en fait, je vais me reprendre un peu. Moi, j'ai l'impression, et là, j'ai l'impression que je vais me mettre comme tout le monde à dos, mais c'est pas là. Moi, je trouve que... Un designer qui évolue avec des contraintes fortes, c'est là où vont naître les meilleures idées. Et c'est ça que je remarque à tous les jours, en fait.
Peut-être juste une note sur les chatbots. Là. Je pense pas que c'était ça qui était suggéré, là, mais les compagnies qui ont essayé de mettre des chatbots, les exposer, créer leur propre truc, là, il y a une décision qui illustre ça, mais faire attention à ça. Une compagnie aérienne que je nommerai pas, en Colombie-Britannique, là, qui a exposé un chatbot. Le chatbot a dit n'importe quoi. Ils ont tenté de mettre le chatbot en dessous de l'autobus. Ça marche pas comme ça. Si c'est la compagnie qui fournit un chatbot, bien, elle est responsable de l'interprétation que le chatbot va donner. Là. Donc, moi, d'essayer de pallier à ce genre de limitation-là, en présumant que d'exposer une IA générative qui serait sous votre contrôle, je trouve ça compliqué comme façon de fonctionner. Il y a même un concessionnaire automobile aux États-Unis là, qui avait mis un question-réponse, puis les gens disaient OK, fait que t'es en train de. Est-ce que n'est-il pas vrai, cher chatbot de concessionnaire automobile? Puis là, c'était genre là pour résumer, réserver ton changement de pneu. Là. Puis là, qu'il y a une vente 2-1 sur les Chevrolet X, le chatbot. Oui, effectivement. C'est le temps de notre vente Bogo. Voici, quand est-ce que tu passes ta commande? Ça fait que ça, comme implantation au niveau des risques, là, je trippe pas. Versus s'assurer par ailleurs que les contenus et les expériences sont consommables et sont testés, c'est-à-dire, vous savez sans doute bien mieux que moi, là, mais de réfléchir au fait que les contenus sont à peu près tous désormais consommés par des IA génératives, donc le rendu de tester dans, ben, on testait dans les furteurs, là, est-ce qu'il faut le tester dans ChatGPT, dans Claude, pour voir si ce qu'on a sur notre site est interprété correctement par les chatbots que les usagers utiliseront pour interfacer avec notre ressource n'est pas une partie de la réponse.
Ça me fait penser à quelque chose parce qu'à chaque fois qu'on utilise un contenu, pas forcément un contenu, mais ça peut être n'importe quoi, une recommandation, peu importe, qui est basée elle-même sur une recommandation issue de l'intelligence artificielle, ça va être très important dans votre design que vous soyez très transparent avec l'usager. C'est-à-dire, par exemple, si on prend ChatGPT, par exemple, c'est marqué en bas, me semble.
La réponse peut être.
Bon, ça, c'est un pas vers la transparence. Mais si dans un de vos designs, par exemple, vous utilisez un contenu recommandé, bon, ben, ça va être très important aussi de le dire, peut-être avec un indicateur, de dire ces recommandations sont basées sur l'intelligence artificielle. Cette réinterprétation du texte est basée sur l'intelligence artificielle. Et pourtant, bien des erreurs. Ça, je trouve que ça, comment dire, c'est un peu comme le concept d'honnêteté avec l'usage.
De transparence.
Oui.
Eh bien, on va clore la discussion parce que ça s'étire, mais un énorme merci à tous nos panélistes. Super intéressant, j'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Surtout, je pense que dans les premières fois, on invite vraiment des gens de l'extérieur. On avait un médecin la dernière fois, mais là, c'est le fun d'avoir des avocats au sein de notre communauté. Donc, vous êtes les bienvenus pour tous les prochains apéros, si vous voulez. Pour clore la soirée, donc, tous ceux qui ont une offre d'emploi et qui sont intéressés, qui recherchent justement des stages, des juniors, des seniors, je vous invite à venir la présenter en face. Et puis sinon, on garde le buffet ouvert, donc vous êtes presque invité de rester et de réseauter.
Merci.